Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence BFV, Bocabeille Facio Vio. Bonjour Jean Bocabeille.
Bonjour.
Bonjour Olivier Facio.
Bonjour.
Et bienvenue dans Comme d'Archi. Merci de venir témoigner tous les deux sur votre beau métier dans Comme d'Archi. Vous êtes diplômés respectivement de l'école de Belleville et de l'école de Versailles, jeunes associés depuis 2018, cinquantenaires et résolument optimistes. Vous travaillez sur tous les types de programmes, avec tout type de clients, maîtrise d'ouvrage, avec tout type de techniques. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse? Où se sont ancrées vos envies d'architecture, vos études?
L'architecture, ça vient sans doute de... j'ai une mère architecte qui m'a surtout entraîné tout le long de ma jeunesse à dessiner. Voilà. Donc j'ai découvert l'architecture par le dessin et par les visites. Voilà. Donc architecte des bâtiments de France, donc j'ai beaucoup dessiné d'églises gothiques, romanes. Voilà. Et puis voilà, c'est ça qui a permis de démarrer.
Et vous?
Alors, moi, beaucoup aussi par le dessin. J'ai toujours aimé dessiner enfant. Et enfant, évidemment, j'avais cette idée d'être architecte que j'ai complètement perdue à l'adolescence. J'avais d'autres préoccupations, comme tous les adolescents. Et il s'est trouvé que, par hasard, en très malheur dans un musée, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait les beaux-arts et qui m'a expliqué que dessiner, ça s'apprenait, c'était pas un don divin. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, je fais les beaux-arts. Ils m'ont dit que c'est pas très sérieux. Et voilà, j'ai obtempéré pour l'architecture et j'en suis toujours content.
Bon. Et alors, vous avez intégré les écoles. Belleville, d'un côté, à l'époque de Siriani.
Tout à fait. Et très vite, à l'école, un travail en collectif, en fait. Ce qui a plutôt marqué tout mon parcours après. Et donc, on était 9 étudiants dans 50 mètres carrés, pas d'ordinateur à l'époque. Et on faisait nos projets ensemble, et ce qui a permis d'initier de solides amitiés, futures collaborations. Et puis cette passion collective, ou en tout cas alimentée par nos conversations jusqu'à la tombée de la nuit, ou plutôt au lever du jour.
Oui, études à Versailles avec Jean-Brice Viau. Donc pareil, une fine équipe de 5 ou 6 copains qu'on ne s'est pas lâché pendant nos études. Donc il y avait entre autres Jean-Brice Viau, mon premier associé qui était François Roche. Et voilà, des études d'architecture somme toute classiques.
D'accord. Et tous les... respectivement, vous avez fait des charrettes dans des grandes agences. Comment vous avez débuté?
En fait, à l'époque, parce que maintenant je suis enseignant, donc je vois bien que la différence, c'est que, enfin, à l'époque, on faisait nos études, mais on travaillait en parallèle. Donc moi, j'ai passé mon diplôme à 28 ans, parce que je gagnais déjà ma vie depuis déjà un certain nombre d'années, en faisant des concours pour d'autres agences, en faisant des dessins. J'ai gagné ma vie en faisant des dessins au début. Donc oui, voilà, c'était un apprentissage en direct, l'école plus l'agence.
Alors moi, au contraire, pas du tout. Les études d'architecture uniquement consacrées aux études. Ouais. Alors, au sortir de l'école, une prétention de jeune étudiant fantastique qui consiste à dire « je monte mon agence tout de suite » dans la société François Roche, puis au bout de 2 ans, de se rendre compte qu'à un moment, on avait des trucs à apprendre un peu quand même. Donc un retour en agence quelques années avant de remonter une agence très tôt.
Et vous aviez donc ce retour en agence, c'était dans une agence bien identifiée dans le paysage ou...
Plusieurs agences, plutôt en freelance que sur du long terme, mais quand même de mettre un peu les mains dans le cambouis.
Et est-ce que vous estimez avoir reçu une éducation architecturale ?
Ben, chez Uno, chez Ceriani, il y avait un enseignement qui était assez didactique, plutôt. Oui. Donc nous, on n'avait qu'une envie, c'était d'en sortir un peu. C'est-à-dire qu'on maîtrisait très très bien tous les outils de ce type de réflexion et surtout de cette représentation, parce qu'à l'époque, on sous-traitait pour des confrères qui sont aujourd'hui très très connus. Oui. Et donc, on faisait les projets pour eux, plutôt en sous-traitance, pas trop dans les agences, on le faisait directement. En fait, on est passé de l'atelier étudiant à l'atelier d'architecture, avec mes copains d'ailleurs, et donc on sous-traitait, et on a eu envie assez vite de s'émanciper un petit peu de cette façon de faire, voilà. Tout en ayant en fait conservé les bases et en ayant intégré tout ça, mais de le dépasser.
Et moi, quand je faisais mes études, j'avais vraiment l'impression de faire des études d'autodidacte. L'école, j'ai l'impression qu'on avait un menu dans lequel on pouvait piocher, effectivement, passer d'une école, nous, à une autre, d'un professeur plutôt postmoderne. À l'époque, ça existait encore, à des modernes, souvent en contradiction avec les professeurs, mais l'école permettait comme ça d'être, non pas en conflit, mais en contradiction avec nos enseignements. Et donc, on a puisé dans cette école comme un grand marché de l'architecture pour se former ses propres convictions au fur et à mesure des études. Mmh.
Et le patrimoine était présent à Versailles ou...
Le patrimoine n'était pas présent en tant qu'enseignement, mais il était là, transpirait, puisqu'on était quand même à les écuries du château, donc on habitait dans le patrimoine.
Bah, le patrimoine, moi j'avais cette culture-là, quelque part avant, et arrivé dans cet enseignement Uno, qui était pas moderne, mais plutôt néo-moderne, il y a eu un choc de culture pour moi. Très fort. C'est-à-dire que d'un seul coup, plus aucune oblique, plus aucune courbe, plus rien d'ornemental.
Plus d'allégorie.
C'était très surprenant pour moi. Voilà. Mmh. Mais en fait, le mélange des genres a façonné finalement des convictions plus tard. Quoi. Mais en fait, ça a été quand même un petit peu brutal.
Bon. Alors après, vous montez votre agence. Vers quel âge, respectivement ?
Ah ben moi, comme Olivier, juste après mon diplôme, c'est-à-dire à 28 ans, moi, c'est pas mon diplôme, je l'ai passé à 28 ans, le lendemain, j'étais à l'ordre, on a constitué notre agence tout de suite.
Oui, donc vous prêtez serment.
On a prêté serment, exactement, et puis on s'est tout de suite engagé avec une agence, en sous-traitant, puis en faisant nos premiers projets.
Et vous, Olivier ?
Pareil, tout de suite à 25 ans, à l'ordre, et vogue la galère.
Voilà. Et donc, vous avez chacun eu des trajectoires un peu différente avec vos associés, c'est ce que vous disiez ?
Ben moi, quand je suis sorti de l'école, je me suis associé donc à Ignacio Prégo, qui était donc un camarade, un copain de promo. Et avec, justement, tout de suite, il y avait Christophe et Nicolas Zizel, Ouayoun de Cause aujourd'hui. Bon, et tout un ensemble de gens ont partagé des locaux. Et donc, on a tous commencé comme ça. Voilà.
Et vous,
Olivier ? Et moi, au début, j'étais associé donc avec François Roche. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 ans. Et après, je me suis réassocié avec mon ami Jean Brisvio, avec qui on avait fait aussi, j'avais fait mes études. Et avec Jean Brice, tout au long de notre parcours, on s'est associé avec d'autres agences ou d'autres architectes. On a toujours ouvert l'agence et partagé le projet avec d'autres personnes.
D'accord. Et du coup, vous avez décidé de vous associer en 2018 ?
Alors moi, mon parcours, il est un petit peu plus compliqué parce que moi, je me suis à la fois séparé d'Ignacio Prégo, au bout d'un moment, en ayant au préalable constitué le collectif Plan Zéroin, qui était à la fois sur ses anciens amis, plus d'autres qui s'étaient rejoints. Donc on a eu une aventure comme ça collective pendant 10-15 ans. Enfin bon. Et puis, il est arrivé la fin de cette aventure collective et j'ai eu envie de repartir tout seul. J'ai créé ma propre agence et j'ai travaillé pendant 5 ans sous le nom de Jean Beaucavé Architecte, tout simplement. Et puis, j'ai eu envie, à ce moment-là, parce qu'Olivier et Jean-Brice, également, que je connais depuis très longtemps. Donc on a eu envie de se regrouper pour rejoindre à la fois nos compétences, nos équipes et nos expériences.
Et l'agence est implantée dans Paris ?
Oui.
Vous, Jean Bocabeille, vous êtes aussi passé par la presse, en fait. Vous êtes à l'origine de l'Annuel Optimiste.
Olivier aussi.
Ah, Olivier aussi.
Ouais. On s'est recroisés encore là, parce que l'Annuel Optimiste, c'était le collectif French Touch, qui est l'autre collectif auquel on a participé, en plus de Plan 01 à l'époque. Mais French Touch est en plus un collectif d'animation autour de questions de l'architecture française, notamment. C'est vrai qu'on s'est mobilisé pour faire valoir une pluralité de l'architecture française à cette époque-là, parce qu'on avait un peu le sentiment qu'effectivement, l'ensemble des médias qui traitaient de l'architecture étaient un petit peu univoques. Voilà. C'était un mouvement à la fois générationnel et pas que, parce qu'il y avait aussi d'autres gens, mais qui nous a amené comme ça à aller rencontrer beaucoup d'architectes et beaucoup d'architectures et publier ces projets, les commenter, faire des tables rondes, enfin croiser nos regards finalement sur une production architecturale française sur une petite dizaine d'années, parce qu'on a fait, je crois qu'on a fait 7 ou 8 annuels, mais on a participé à plusieurs événements. Venise,
La Biennale.
La Biennale de Venise en
2007 ou 8.
2007, peut-être 8. Voilà. Voilà, donc on a aimé comme ça animer la scène architecturale française dans un regard, un regard critique, mais surtout un regard qu'on voulait exhaustif, le plus large possible.
Ouais. Et ça devait être énorme comme boulot, de mener ça de front avec une carrière.
C'était du boulot, c'était beaucoup de boulot, parce qu'on s'était donné comme objectif de rencontrer les architectes et les architectures, donc on allait visiter tous les bâtiments. Et donc on rencontrait les architectes, on faisait ça de front, mais on avait une énergie, je crois, énorme, qu'on a toujours d'ailleurs, mais je pense qu'à ce moment-là, on a développé comme ça une activité entre nos agences, nos collectifs, et cette envie de faire parler ou de parler d'architecture, assez énorme, ouais.
Oui, quel boulot.
Bon, beaucoup de boulot, mais beaucoup de plaisir surtout, parce que ça permettait aussi de sortir de l'agence, qui à un moment, on peut s'enfermer dans une agence.
Oui, bien sûr.
Et donc là, l'idée de sortir, de rencontrer, de parler, ne serait-ce qu'avec déjà les gens du collectif, les soirées étaient fort agréables.
Mais c'est bien parce que, moi qui ai commencé avec l'ancienne génération, l'ego était encore quelque chose de très important, où on avait du mal à parler d'une architecture autre que la sienne en tant qu'architecte. Enfin, moi, j'ai rencontré ça de manière récurrente. Je trouve que... Est-ce que vous pensez que c'est une évolution due à la génération, une nouvelle génération? Ou est-ce que... je ne sais pas, ça m'interroge un peu.
Disons que notre génération à nous, elle est déjà supplantée par une autre. Donc, autre regard. Nous, on s'est ouvert comme ça. On a eu besoin, effectivement, de sortir de ces logiques un petit peu nominales, des architectes avec un nom et tout ça. Ou, effectivement, fut une période, un bon architecte, c'est un architecte mort, comme ça, au moins, on n'en parle plus. Bon. Mais c'est vrai que nous, on s'est beaucoup ouvert sur les architectes de notre génération. Et puis après, il y a une autre génération qui est arrivée, avec tous les réseaux sociaux et tout ça, et qui est, à mon sens, beaucoup plus égocentrée, mais qui a besoin de communiquer beaucoup sur eux-mêmes. Alors que nous, on était dans une logique d'aller rencontrer d'autres architectes.
Ouais.
Voilà. Donc, mais bon, question d'époque, je ne sais pas, après, ça fera l'analyser avec un peu plus de recul.
En même temps, ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, mais il y a une nécessaire pratique collective, il me semble, non, aujourd'hui.
Mais nous on n'avait pas de com' personnel, si vous voulez. À ce moment-là. Donc on n'était pas dans une logique de communication de nous-mêmes. On était dans une logique de communication de l'architecture.
Oui, d'une réflexion sur la pratique.
Ce qui n'est pas la même chose. Voilà.
Oui, et puis il y a un paysage architectural qui, maintenant, depuis plus de 30 ans, a énormément évolué. Moi, je me rappelle quand je suis rentré dans les années 80, j'allais dire, il n'y avait personne. Si, il y avait peut-être Henri Siriani, Ricardo Boffi, les quelques-uns, mais quand on regarde les revues de l'époque, c'était d'une pauvreté absolument... énorme. Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose. Et le secteur de la construction lui-même, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à construire. Et donc, je pense que le métier se réorganise. Et plus j'ai avancé dans ma carrière, plus on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'architectes de talent. Donc, effectivement, les histoires d'ego et de regroupement changent en fonction des époques.
Ça va, en tout cas, aujourd'hui, ça va très vite.
Oui.
Vous avez ce sentiment ?
Aujourd'hui, ça va de plus en plus vite et effectivement, les époques se succèdent, les modes, on va dire. Nous, qui avons effectivement une petite cinquantaine maintenant, on a eu le temps de se rendre compte qu'on est passé du postmodernisme au néo-modernisme. Aujourd'hui, on est dans une époque tramiste, je ne sais plus comment on peut dire, ou tramisme. de sobriété d'un seul coup. Il y a eu une époque dite bling-bling, de laquelle, je pense, on nous a associé beaucoup, parce que French Touch a été beaucoup associé à l'idée de projets un petit peu bruyants, vociférants, voire en tout cas gesticulants, bon, une époque comme ça, avec de la couleur et des matériaux et des formes un petit peu bizarres. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est revenu parce qu'il y a un discours sur une sobriété attendue dans notre époque, qui vient se superposer à une sobriété architecturale. Voilà, donc d'un seul coup, on revient à des expressions extrêmement
épurées.
Et surtout, je pense qu'une qualité de l'architecture qui s'est extrêmement répandue. À l'époque où j'ai commencé à travailler, donc on sous-traitait pour des agences parisiennes. Dès qu'il y avait un projet important en province, c'était forcément un architecte parisien. Il n'y avait quasiment pas d'architecte en province qui était connu. Et on voit que, comme ça, en 30 ans, le paysage a énormément évolué. Il y a des architectes de qualité partout, sur tout le territoire, pour des petits et des gros projets. Et donc, c'est un beau cadeau de la vie, quoi, de l'architecture, tout d'un coup, qui, au fur et à mesure des années, qui est montée en qualité.
Beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'exigence. Aujourd'hui, un concours, vous devez remplir des notices et prouver et donner des éléments de réflexion sur votre projet qui sont très avancés, très pointus. Quand on faisait les concours à l'époque, c'était coupe-façade, vaguement une perce à la main, au trait. C'était l'esquisse, vraiment. Mmh. Aujourd'hui, on est sur des projets qui sont extrêmement denses.
Et pourtant, j'ai entendu dire plusieurs fois qu'on construisait pour 50 ans.
C'est-à-dire ?
Que la qualité de la construction n'était pas tellement au rendez-vous.
La qualité de la réflexion est très importante. La qualité de la construction, c'est encore autre chose, parce que ça vient se fracasser sur une réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des logiques de promesses un petit peu non tenues, à notre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de paroles et beaucoup de réflexions. Et après, à la réalité, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur cet aspect de la réalité. On y reviendra peut-être un peu après. Mais la dimension constructive, elle est faite surtout de mots aujourd'hui. Et quand on arrive après sur le chantier, on perd énormément par rapport à tout ce qu'on a pu promettre et tout ce qu'on a pu réfléchir. C'est-à-dire que la qualité de la réflexion est bien meilleure, je pense, et la qualité de la réalisation se trouve appauvrie pas tant parce qu'il y a une perte de savoir-faire, mais il n'y a surtout pas les moyens qui vont avec les promesses qu'on a engagées.
Alors, on va parler maintenant de l'histoire de vos projets, si vous voulez bien. Vos projets emblématiques, passés, comme vous le souhaitez, et ceux qui font votre actualité aujourd'hui ?
Les projets qu'on a pu réaliser plus tôt, on pourrait en reparler, mais nous, on a plutôt envie de parler des projets qu'on fait aujourd'hui, parce que les projets qu'on a fait, ils sont très bien. Nous, on pense que ce qu'on a fait, on a toujours été très exigeants avec nous-mêmes dans la production, dans nos projets, mais toute cette expérience accumulée nous permet d'être encore plus pointus sur les projets qu'on fait aujourd'hui. Et pour en revenir à ce que je viens de dire, nous, on est de plus en plus attachés à la réalité constructive de nos projets. Et il faut que nos projets soient à la hauteur des promesses qu'on a données. C'est ça notre objectif, et ça passe par une réappropriation du savoir-faire constructif. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la production architecturale s'est dotée aussi de maîtres d'ouvrage qui se sont équipés d'hameaux, de start-up, de plein de gens qui viennent autour, et qui apportent évidemment beaucoup de réflexion sur le projet. Mais nous, architectes, on va dans ce sens, se réapproprier la construction, voilà. Donc le savoir-faire constructif. Et comment, en fait, on met des matériaux les uns avec les autres dans le meilleur dispositif pour que chaque matériau puisse être utilisé pour ses qualités intrinsèques. Voilà.
C'est les réinventer ont un peu réinsufflé cette réappropriation du projet par l'architecte, non ?
Je pense que les réinventer, ils ont surtout un peu fait que nous, fut une époque, on proposait plein de choses sur l'usage sur les bâtiments et nos promoteurs ou nos donneurs d'ordre nous disaient bon, on n'est pas trop sûr. Le réinventer a d'un seul coup réinsufflé beaucoup de choses sur l'usage, mais d'un seul coup aussi une grande perte sur le savoir-faire constructif. Parce que d'un seul coup, on a promis plein de choses, mais au résultat, on ne les voit pas trop, ou en tout cas, ce n'est pas tout à fait... Voilà. Donc nous, on revient vachement sur cette question-là.
Olivier, alors, les projets.
Alors, les projets, vaste sujet. Le sentiment que j'ai sur les projets anciens et présent et futur, c'est qu'on a toujours travaillé, à l'époque avec Jean Brice et aujourd'hui avec Jean, comme des projets de façon singulière. Peut-être pour ça que sur notre production, il n'y a pas forcément toujours une ligne graphique ou plastique identifiable. Et donc, on a toujours pris les projets comme quelque chose de singulier, unique, avec ce plaisir toujours renouvelé d'être surpris par le résultat auquel on arrive à la fin du projet et pas une image qui est déjà préétablie. Ce qui fait que toujours autant de plaisir à dessiner des projets depuis les premiers projets qu'on a pu faire avec Jean-Brice, aujourd'hui tous les projets qu'on fait avec Jean, ça, ce plaisir renouvelé de tester de nouvelles techniques, de nouveaux usages, des nouveaux concepts, des nouvelles façons de raisonner et des nouvelles façons d'habiter et de vivre.
Alors par exemple, sur quel projet vous aimeriez parler de ça ?
Une des expériences marquantes qu'on a vécues et qu'on vit aujourd'hui avec Jean dans l'aménagement, la plus singulière, c'est parce que pas que la plus grosse, mais la plus grosse, c'est l'immeuble plus qui est un immeuble en bois, qui est une vraie aventure d'architecte par la durée. Ça a duré 10 ans.
Combien de niveaux ?
7 étages. C'est 30 000 mètres carrés de bureaux autour d'un atrium et 7 étages. Et ce qui était singulier dans cette aventure, enfin ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y a 15 ans maintenant, on proposait une maison en bois avec des potagers, un atrium, etc. Et ça paraissait farfelu au maître d'ouvrage. Les 5 premières années, au bout de 5 ans, c'est devenu une évidence pour tout le monde et ça a été réalisé en poussant le curseur encore plus à fond de ce qu'on avait proposé au début du projet. Mmh. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque formidable quand même parce qu'il y a des champs d'ouverture qui s'ouvrent tous les jours, des préoccupations écologiques, citoyennes, constructives et une intelligence du devenir du bâtiment, des matériaux. Effectivement, il n'était pas du tout là dans les années 80, évidemment, et qui augmente et qui est un vrai plaisir, puisque à la fin, c'est l'utilité de ce qu'on fait, l'utilité sociale qu'on se fait, qui et des bâtiments qu'on construit, qui prend de plus en plus de pertinence, ce qui est évidemment un sujet de satisfaction permanent.
Il se situe où, cet immeuble ?
Il se trouve à Saint-Denis. Mmh. Il se trouve à Saint-Denis. Aujourd'hui, ça va être donc le siège de Paris 2024, et on travaille sur l'aménagement intérieur.
D'accord.
Il y a ce souci toujours constant, effectivement, d'être en veille, en fait, par rapport aux évolutions de la société. Et je pense qu'on a toujours, Olivier et Jean-Brice de leur côté, et moi, à travers mes collectifs, essayer d'interroger la société pour que, avant le projet, il y ait un sujet. Donc on s'interroge sur le sujet, et c'est le sujet qui devient projet. Et ce qui, effectivement, a pour conséquence que bien souvent, les projets ne se ressemblent pas. Parce que les sujets sont différents et que les époques changent. Et donc, aujourd'hui, tu viens de parler de Pulse. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur des projets. Et quelque part, quand on est en veille vis-à-vis d'une société, il faut être un peu opportuniste, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il faut saisir les opportunités. Et aujourd'hui, avec cette crise sanitaire qu'on connaît, il se trouve qu'on vient de faire des projets. Là. Un des derniers qu'on vient de gagner, par exemple, on a proposé quelque chose qu'on a eu du mal à imposer avant, enfin en tout cas pour lequel on perdait tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est passé. C'est de proposer un projet avec des logiques, c'est du logement, avec des logiques de desserte, de coursive extérieure qui permettent d'amener à son logement pour faire des logements traversants, avec une coursive qui permet d'avoir un petit espace extérieur avant de rentrer chez soi. Enfin, il y a toute une idée de parcours, si vous voulez, depuis l'espace public jusqu'à chez soi, qui passe par des espaces extérieurs qualifiés. Et en fait, quand on proposait ça avant, ça marchait jamais. Et puis là, d'un seul coup, parce qu'on a pu bâtir un discours qui a résonné un peu aux oreilles d'un maire, en l'occurrence, il s'est dit d'accord, voilà. Et alors c'est ça, mais c'est aussi, par exemple, en ce moment, on travaille sur des projets en poussant très fort sur des caractères de réemploi de matériaux. Donc on l'avait déjà initié sur Pulse, on a travaillé ça sur une...
Alors Pulse, c'est le fameux immeuble.
Pulse, c'est le fameux immeuble où là, il y a eu un réemploi de dalles de faux planchers. Donc là, on réutilise un objet pour son usage initial. Mais après, sur d'autres projets, comme on vient de terminer une crèche à Paris, où là, on a pu travailler toute une façade de bâtiment qui a été réalisée à partir de la récupération de porte-palière d'un immeuble qui était en réhabilitation juste à côté. On a pu récupérer ces portes, transformer, retrouver la matière première qui était le chêne et dessiner une façade en tasseau de chêne massif sur un projet contemporain. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent aussi beaucoup et qu'on essaye de déployer sur tous les projets qu'on a en ce moment. Donc, il y a une question comme ça de saisir l'air du temps. Enfin, c'est plus que l'air du temps, finalement. C'est aussi...
Être en phase avec son temps.
Être en phase avec son temps, voilà.
Ouais. Et sur ce réemploi, vous travaillez avec des spécialistes du réemploi, j'imagine ?
Oui, sachant qu'il y a des filières qui sont en train de se développer. Alors, c'est assez émergent encore en France, mais il y a des acteurs très impliqués et très volontaires. Donc, c'est aussi quelque chose que nous, on apprécie beaucoup, parce que c'est des gens qui sont aussi impliqués que nous. Et donc, des gens qui, effectivement, sont en train de développer. Alors, on travaille avec Bellastock, par exemple, mais on commence à connaître de plus en plus d'acteurs, effectivement. Et puis, les territoires s'équipent de plus en plus de plateformes de récupération de matériaux. Donc, ben, nous, on va rencontrer ces gens-là et on essaie de trouver des ressources, des moyens de stockage et surtout des matériaux qu'on pourrait réemployer. Et là-dessus, le champ d'invention est immense.
Oui, parce que on s'interroge sur comment être en phase, en fait, avec un besoin de matière, un instant T sur un projet. Entre le dessin, la projection, est-ce que vous allez, c'est si facile que ça de trouver la matière au bon moment ?
Non, justement, c'est une question c'est une question d'opportunité au sens de qu'il y a une temporalité pour ça. Donc, effectivement, on peut se dire qu'on va initier une démarche de réemploi sans pour autant savoir exactement quel sera le matériau qu'on va trouver, ça, puisque c'est une question de sourcing. Enfin, il faut le trouver, ensuite il faut le stocker, puis il y a toute une démarche. C'est plus une démarche que justement, c'est complètement différent que de prescrire effectivement un matériau qu'on va trouver dans un catalogue tout fait. Même si les filières s'organisent pour développer des sortes de catalogues. Mais là, on est dans une phase transitoire où on est plutôt dans l'idée qu'on va déployer des moyens, de l'énergie pour développer un caractère de réemploi sur un projet, et au bout d'un moment, on trouve le chemin.
C'est une façon de penser le projet aussi qui est cohérente à ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que le projet, chez nous, il est ouvert le plus longtemps possible. À un moment, il faut bien arrêter les choses, mais le plus longtemps possible. Comme il est ouvert, et bien justement, le réemploi, il s'y prête bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas encore en quoi ça va être fait, ou comment. On se laisse toujours l'opportunité d'avoir une bonne idée à un moment, d'avoir un ingénieur qui nous apporte quelque chose qu'on n'avait pas, une entreprise aussi qui peut encore améliorer le projet. Donc, quand on travaille, on ne part pas sur un a priori qu'il faut absolument réaliser, qu'on l'a dessiné au poil, j'allais dire, mais une façon de travailler qui laisse ouvert toujours aux bonnes idées. Quand leur emploi, il s'inscrit parfaitement là-dedans, mais d'être ouvert à ces opportunités qui vont se présenter ou pas. Et on se rend compte que chaque fois qu'on cherche, il y a toujours quelque chose qui se présente.
Donc, une nécessaire agilité.
Oui, pour être souple.
Alors, que représente pour vous le savoir construire que vous revendiquez ? Est-ce que vous venez d'y répondre ou vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ?
Je crois qu'on vient d'en parler. Hein. Ouais. C'est un petit peu tout ce qu'on vient de dire précédemment, mais c'est un souci. En fait, ce qui est pas mal, c'est que finalement, architecte, c'est un métier qui dure longtemps. Hein. Donc, on l'aborde différemment à 28 ans ou 25 ans. Et puis aujourd'hui, avec l'âge qu'on a, on a toutes ces expériences, en fait. Et c'est là que ce métier se déploie aussi, avec toutes ces expériences. Et aujourd'hui, nous, on a testé beaucoup de systèmes constructifs, sinon tous, dans plein de situations. Et ça nous donne une richesse, si vous voulez, de vocabulaire, ou en tout cas de pensée, dans lequel on puise pour trouver la réponse juste dans un contexte précis. Et aujourd'hui, ce savoir-faire constructif, il est le fondement même de notre pensée.
Voilà. Néanmoins, on sait qu'un bâtiment en structure métallique, c'est énormément de dessin. Ces différences de matière et de matériaux, vous en avez évidemment acquis les règles. Mais il y a quand même des matières ou des matériaux qui sont plus difficiles que d'autres à mettre en œuvre, ou en structure, ou en parement, ou qui s'adaptent, ou qui se combinent. Vous ne pensez pas que, par exemple, à certains moments, c'est quand même le béton qui gagne, ou... Enfin, je ne sais pas comment le dire. En fait, j'ai en tête qu'une structure métallique, c'est beaucoup d'investissement au niveau du dessin. Donc, ça s'anticipe.
De toute façon, tout s'anticipe. Après, on essaie de ne pas avoir d'a priori et effectivement de mettre le matériau juste au bon endroit avec des critères qui changent. Par exemple, aujourd'hui, il y a un critère, une des raisons pour lesquelles on essaye de construire le maximum en bois, qui est une des raisons qui est souvent très peu évoquée, au-delà du bilan carbone, c'est que On s'est rendu compte en lisant des ouvrages et avec nos bureaux d'études qu'en fait, par exemple, quand on investit 100 euros dans le bois, je crois qu'il y en a 80 qui reviennent à la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre hautement qualifiée. Dans le béton, il doit y en avoir 60 et dans le métal, il doit y en avoir 40. Mmh. Donc évidemment, en tant qu'architecte responsable, on se dit si on dépense 100 euros et que ça va dans la main-d'œuvre qualifiée, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller filer de l'argent à la sidérurgie chinoise pour faire une caricature. Vous voyez ce que je veux dire ? Mmh. Ben, c'est des notions qui arrivent au fur et à mesure de notre travail et qui font qu'à la fois on peut convaincre les maîtres d'ouvrage et on essaie de trouver le matériau le plus juste au bon endroit.
Mmh. Après, en ce qui concerne le dessin, chaque matériau a sa spécificité et a ses règles. Mais nous, là où on sait pas tout. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est travailler avec les gens qui savent. Et ça, c'est pas que les ingénieurs, c'est aussi les entreprises. C'est aussi, en fait, comprendre, synthétiser et développer, finalement, sur le savoir-faire d'autres. Voilà. Et ça, c'est ça le travail de l'architecte. On ne sait pas tout. Mais il faut être d'une large ouverture d'esprit et d'une compréhension, enfin, de comprendre, en fait, pourquoi et comment on fait les choses, ce qui nous permet de les mettre en œuvre, souvent les associant. Parce qu'en fait, évidemment, ce qu'on essaie de développer de plus en plus, c'est des caractères mixtes en fait, de construction. Voilà.
Et puis l'espace et matière aussi.
Oui.
Le vide.
Le vide, oui. Mais alors ça, vous voyez, par exemple, moi, mon enseignement à l'école de Siriani, on me parlait beaucoup d'espace. On ne me parlait pas du tout de matériaux. On me parlait très peu de matérialité. Donc, cet enseignement d'un espèce de vide qui serait une espèce de substance sacrée qui formerait le bonheur, c'est quelque chose qu'on a effectivement acquise et qu'on a appris. Mais honnêtement, on a eu envie, disons, de définir les critères d'un espace autrement. Et je crois que nous, enfin, je pense que Olivier et Jean-Brice aussi, ils ont cette dimension de la matérialité, si vous voulez, un espace. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, si vous voulez, mais c'est pas qu'une dimension, c'est pas qu'une lumière, c'est plein de choses. Donc tout ça, c'est plus indicible, voilà. Mais enfin, ça nous concerne. On en est très très convaincus, ça c'est sûr.
Et il y a cette volonté, mais qui, je pense, quand même aujourd'hui. C'est vrai que ça n'était pas au début de notre carrière. En tout cas, moi, ça l'était chez les architectes anciens que j'admirais. Et c'est souvent le cas de la belle architecture. C'est une architecture qui ne cache pas son matériau, avec du placo, pour ne citer que lui. Mmh. Et qui laisse apparaître la réalité de la construction comme ambiance, ornement, structure, et tout ça. Et cette volonté qui transparaît à peu près dans tous nos projets, de que le matériau constructif soit apparent, et pas masqué par
un calepinage,
quoi que ce soit.
Comment est composée votre équipe ?
Nous, on est une quinzaine, je dirais, mais ce qu'on s'attache à faire, c'est à se réapproprier tous les métiers de l'architecte. Aujourd'hui, un architecte, c'est quelqu'un qui produit du papier. Hein. Enfin, ça a toujours été ça, on produit des idées à travers du papier et des maquettes. Donc nous, par exemple, on a quelqu'un à l'agence qui fait tous les dessins. Enfin, les dessins, les perspectives, hein, d'accord. Les maquettes, on a un atelier maquette pour refaire nos maquettes. Il fut un temps où tout était un petit peu externalisé. Hein, bon, nous, on a voulu se réapproprier tout ça et pour pouvoir en fait maîtriser tous les outils de l'architecte dans sa communication et dans sa manière de faire comprendre sa pensée. Voilà, c'est essentiellement ça. Voilà.
Et puis les équipes, j'allais dire, qui aujourd'hui, on travaille avec des équipes sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a, on a une équipe qui a depuis longtemps, c'est autant des employés que
oui,
des amis.
Oui, c'est des salariés.
Des salariés, ils ont fait exactement le contraire de ce qu'on a vécu, on était plutôt des mercenaires quand on était jeunes, on appelait ça comme ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on reproduit dans la gestion et la façon dont on a envie de travailler sur le projet.
Mais les places sont chères aussi, donc ça permet de fidéliser certainement.
Non. Oui, puis d'avoir une vraie culture d'agence, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, quand on a associé nos deux agences, on a associé deux cultures d'agence et on a passé un an et demi à faire coïncider tout ça. Et c'est intéressant parce qu'il y avait de très bonnes choses chez les uns et chez les autres et on a essayé d'associer et d'additionner tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a créé une belle équipe.
Mmh. Et qui travaille sur quel projet ? Vous avez des projets qui vont sortir, j'imagine. bientôt.
Oui, plein de projets. Non, on a, oui, enfin, la période un peu difficile quand même, mais bon, on a fait des projets, mais nous, c'est chaque projet est une aventure, voilà. Donc aujourd'hui, ben, on a des logements, des bureaux, enfin des logements, plusieurs opérations de logement, plutôt dans des logiques de structure mixte, ce que j'expliquais tout à l'heure un petit peu, ou justement quand je parlais de coursives extérieures, tout ça c'est des choses qui nous intéressent, donc on en a un ou deux comme ça. On va faire aussi un projet de bureau qui est un peu la suite de Pulse à Lyon, à Villeurbanne. Mmh. Voilà, et puis on travaille sur d'autres projets. Et alors ce qui est... Et d'ailleurs, comme ça, on peut en parler. En fait, au-delà de ces projets avec des maîtres d'ouvrage, on travaille aussi sur des projets prospectifs. Et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on est en train de développer un concept de projet générique qui permette de faire du bureau ou du logement de manière réversible. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que c'est l'ensemble de nos expériences mêlées de bureau et de logement à l'aune de ce qui se passe en ce moment qui nous permet de revisiter un petit peu cette question-là et d'être en mesure de proposer à des donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, des solutions par rapport à des logiques aussi de préfabrication, de filière sèche, tout ça. Donc ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup en ce moment.
Voilà, autre sujet qui nous intéresse beaucoup, on vient de livrer un bâtiment à Lyon sur les hauts de Fourvière contre l'amphithéâtre, qui est une réhabilitation, qui est une ancienne chaufferie, que l'on a réhabilité en logement, plus une fondation d'art contemporain. Et donc un des sujets, qui est un sujet d'actualité pour tout le monde, je pense, mais qui nous tient à cœur, c'est de travailler sur la reconversion, la réhabilitation, quitte à changer les usages des bâtiments et de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire des bâtiments de bureaux, par exemple, ce qui est une vraie question que tout le monde se pose. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus avec différents promoteurs, essayer de voir comment on peut réutiliser ce patrimoine. On vit une époque formidable où démolir un bâtiment, ça ne devient pas bien, ce qui est une bonne nouvelle. Mmh. Donc, comment retravailler avec nos expériences sur ces bâtiments anciens, c'est aussi un des gros sujets à jour en ce moment.
D'ailleurs, on est en train de travailler sur un bâtiment comme ça, qui est un très beau bâtiment dans le 14e, qui est rue Boissonnade, qui est un bâtiment de bureau de la ville de Paris. Mmh. Et un petit bâtiment très singulier, mini Flatiron, mini, hein, mais bon, rue de Boissonnade, et qu'on transforme donc de bureau en logement, avec une extension en structure... mix bois-béton, encore, je reviens. Mais voilà, et ça, c'est un très joli sujet sur lequel on travaille en ce moment.
Bon, et qui va être livré quand ?
Qui va être livré dans... là, on est en appel d'offres, donc dans un an et demi.
L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?
Je vous dirais qu'à la sortie de l'école, j'imaginais pas grand-chose. Ouais. En tout cas... les perspectives qui s'ouvraient à l'architecte à l'époque, c'est fait autre chose qu'archi, il n'y a pas de boulot, quoi. Il n'y avait pas grand chose à faire, c'était un peu compliqué. Surtout moi, je venais de province, c'était encore plus difficile. Donc, ouais, je n'imaginais pas grand chose. Et si j'avais dû imaginer quelque chose, je pense que ce à quoi on est arrivé était plutôt
pas mal,
plutôt mieux, ouais, que ce que j'aurais pu imaginer à l'époque, oui.
Et vous, Jean ?
Moi, je suis comme Olivier, j'étais provincial, donc arriver à Paris, construire déjà dans Paris, c'était un truc stratosphérique.
Oui, de l'ordre du fantasme, quoi.
De l'ordre du fantasme. Voilà. Après, au-delà de ces petites satisfactions de l'ego, je dirais, aujourd'hui, je trouve que je ne m'attendais pas à ce que, effectivement, ce métier soit les objectifs de ce métier. Ça a changé, ça, par rapport à ce que je croyais au début. Au début, je croyais justement c'était fabriquer des bâtiments et puis qu'on m'applaudisse. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est différent, c'est donner beaucoup plus de sens à ce qu'on fait et donc avoir compris que les architectures qu'on construit vont nous suivre bien longtemps et que des gens habitent dedans. Ça, ça a pris du temps, ça paraît un peu, oui, mais quand même, ça prend du temps de comprendre qu'en fait, nos architectures sont des supports de vie d'autres. Voilà. Mm-hmm. Des lieux dans lesquels d'autres vont vivre. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui qu'on en prend plus pleinement conscience et qu'on est aussi motivé par ça, en plus de tout le reste.
Mmh. Je me rappelle très bien, avant de démarrer les études d'architecture, est allé voir un architecte pour lui demander si ce n'était pas une idée farfelue, si c'était une bonne idée. Et à l'époque, sa réponse était, il y a 90% d'emmerde et 10% de plaisir. Pour les 10%, ça vaut le coup. Je dirais aujourd'hui, on doit être à 50-50, quoi. Le pourcentage s'est amélioré. Hein.
Ouais, donc vous êtes réellement optimiste.
Et on essaye.
Oui.
La crise sanitaire a beaucoup impacté votre pratique ?
Oui, un petit peu. Après, la crise sanitaire, c'est structurel, puisque c'est tombé comme ça pour tout le monde. Ouais. Et puis nous, conjoncturellement, ça tombait à un moment où on avait un petit peu un creux de projet, tout ça. Mais bon, voilà. Après, oui, ça a modifié notre pratique. Oui, parce qu'on a été obligé de s'adapter avec des logiques de télétravail et un petit peu de Zoom en continu. Mais pour autant, ça change aussi, surtout, nos façons de penser. Enfin, nos façons de penser, les espaces qu'on est en train d'imaginer. C'est-à-dire qu'on pense que ça va avoir un impact important sur la façon dont les gens habitent, sur la façon dont les gens travaillent, et que donc nous, on se doit de penser, de proposer des solutions par rapport à ça.
Vous aviez participé à la réflexion du pavillon de l'Arsenal ?
Moi, j'avais écrit un petit texte sur les mauvaises herbes. Enfin, bon, c'était l'idée de dire que cette notion de nature revenait très, très fortement au sens où cette nature qu'on ne contrôle pas, malheureusement pour les hommes qui souhaitent tout contrôler, quelque chose nous échappe et nous met bien dans l'embarras.
Alors, comment imaginez-vous ce monde d'après ? Vous l'imaginez ou...
On essaye, c'est quand même de... Le cœur de notre métier, c'est aussi de construire pour demain. Donc si on ne protège pas demain, mais on ne fait pas notre métier. Ça dépend à quelle longueur on regarde. Moi, je pense que le gros souci aujourd'hui, le gros sujet de demain, il est à une échelle qui est plus macro, qui est vraiment le problème de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, avant même celui de l'architecture qui arrive en dernier. Et où effectivement, on a des leviers, mais des leviers essentiels. C'est l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Il y a une évidence aujourd'hui qu'il faut densifier le maximum. Et les spécialistes, ça me paraît totalement logique, pensent qu'il faut avoir des villes de plus en plus denses et de petite ou moyenne taille. Alors on en est loin, c'est un vrai travail à long terme. Il faut l'avoir en tête quand on dessine un bâtiment, proposer effectivement cette densité. Mais si on veut régler les problèmes de transport, évidemment, densité et sur des choses qui s'éloignent de la mégalopode. Et puis après, on a tous nos fantasmes du monde de demain, mais je pense que le fantasme du monde de demain qui imagine tout le monde dans sa petite fermette au milieu d'un paysage bucolique, etc., c'est une belle image qui, à mon avis, ne correspond pas du tout à la réalité de ce qui devrait advenir si on veut être raisonnable et responsable au niveau de l'énergie et donc des transports. Et puis la densité, c'est se tenir chaud, hein.
Bon.
Après, il y a un autre aspect, c'est qu'on est dans une époque où on est toujours très, très orienté vers une pensée du moins, c'est-à-dire bas carbone, enfin on utilise des termes comme ça,
minimiser
l'empreinte, enfin, on est toujours sur des logiques de réduction, bon, ce qui est incontestable, mais je pense qu'il faut peut-être retrouver le plus en changeant les critères, c'est-à-dire que par exemple, plus de confort aujourd'hui, est-ce que ça ne veut pas dire forcément se chauffer plus ? Mais peut-être que c'est se dire plus de lumière. Parce qu'il y a quand même un truc un peu dingue à se dire qu'on va, pour réduire nos consommations, se retrouver dans des projets de plus en plus compacts, avec des projets de plus en plus épais, avec des fenêtres de plus en plus petites. Donc c'est logique de moins, moins, moins. Je trouve qu'il faut trouver quels sont les critères qui nous permettent de faire du plus, 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 tout en respectant effectivement la grande dynamique qui est la nôtre, à savoir moins consommer. Mais moins consommer, ça ne veut pas dire forcément moins de confort, à condition de changer la notion de confort. Parce qu'être tous à 21 degrés, est-ce que ça a du sens ?
Et demain, surtout, c'est un vrai sujet de société, au sens que je pense que demain, ce qui va changer le plus, c'est la façon de produire. C'est-à-dire qu'on vient effectivement des années 80, où, avec ce mythe encore qui était là de l'architecte Diemurge qui décide de tout à la place de tout le monde et qui est, lui, sait autant en urbanisme qu'en architecture. Et on va dans une époque, et je pense qu'il faut qu'on aille dans une époque où il y a de plus en plus de parties prenantes, de plus en plus de concertations avec les futurs habitants, les techniciens, les politiques, les administratifs. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus un choix, c'est notre vécu. Et je pense que dans le futur, on ne sait pas comment ça va se cristalliser, mais c'est cette partie-là qui va transformer plus encore l'architecture. C'est une façon de comment l'architecture s'est réappropriée par le collectif, s'est réappropriée par les gens, s'est réappropriée par les politiques, s'est réappropriée par le quartier, de façon à ce que on puisse faire usage de l'architecture de façon intelligente.
Et vous avez l'impression que le commun des mortels s'y intéresse tant que ça ?
Ben, donc on leur propose, si on propose sur un immeuble de logement, local commun, potager, etc., c'est-à-dire des lieux qui fabriquent du commun, évidemment, tout de suite, ça va intéresser les gens. Quand on propose des immeubles où il n'y a pas de commun, comment voulez-vous que les gens décident quoi que ce soit? Il faut qu'il y ait quelque chose à partager, en dehors du local poubelle, du local vélo et du hall, évidemment. Pour ne parler que des immeubles de logement. Et pareil pour la gestion géographique de la ville. On le voit aujourd'hui apparaître des espaces partagés, gérés collectivement. Et c'est ça qui va permettre d'intégrer les gens à notre réflexion. Parfois même, ça peut aller jusqu'au dessin. Mais c'est une volonté politique. De toute façon, on ne va pas y couper. Et ça va transformer aussi énormément et notre pratique, et l'architecture, et la ville. Enfin, j'espère.
C'est aussi une question de génération. Je pense que, très clairement, la génération qui nous suit a davantage imaginé qu'il y avait du positif à partager. Ce qui n'est vraiment pas le cas de la génération qui est la nôtre et de celle qui nous précède, encore plus. Donc, la preuve en est en ce moment, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et effectivement, cette génération-là et la génération qui vient encore après portent bien davantage ces notions d'équilibre, en fait gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, ce que je ne peux pas avoir, je peux l'avoir à plusieurs. Peut-être avoir un logement plus petit, mais avoir plein d'espaces partagés. Et d'ailleurs, même dans leur façon de vivre, nous, on a des enfants qui ont entre 20 et 25 ans, hein, donc on voit bien qu'ils vivent différemment de nous à cette époque-là. Hein, donc, oui. Ils vivent de manière beaucoup plus collective, en tribu. Enfin bon, c'est assez
alors,
étonnant.
C'est assez paradoxal, parce que vous disiez en début d'émission qu'ils sont très préoccupés par leur image, quelque part. Et paradoxalement, ils sont plus aptes à vivre en communauté.
Ah, mais on n'échappe pas à nos paradoxes. Je pense qu'il y a plein de paradoxes dans une société. Ils sont effectivement... Bah, le développement des réseaux sociaux fait qu'il y a un développement de l'ego qui est incroyable. Et puis en même temps, pour reprendre une expression du moment, ils sont capables de vivre bien plus en communauté que nous.
Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? D'ailleurs, Jean, vous enseignez. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour ceux qui nous écoutent?
Ce qui est étonnant, c'est pas tant ce que je leur dis que les sujets qu'ils me proposent, en fait, enfin, que nous leur proposons dans le cadre des études, mais aussi je suis des diplômes. Et je suis frappé d'une chose, c'est que dans le cadre du diplôme, c'est l'étudiant qui arrive avec son sujet. Et tous les sujets concernent des sujets soit de reconversion de site, soit de projets extrêmement économes, dans des logiques de reconversion, soit de friches industrielles, mais aussi de territoires oubliés. Voilà. Donc c'est étonnant, et j'ai pas un seul étudiant qui vient me voir pour me dire j'ai envie de faire un aéroport. Vous voyez, ou un hôtel
de luxe.
Il n'y
en a pas un qui arrive avec son projet ex nihilo,
ben non,
gigantesque.
Ça n'existe plus. À notre époque, moi j'ai fait un diplôme, par exemple, je le dis, j'ai fait un stade de football. Voilà, je pense que il n'y en a pas un étudiant qui viendra avec un programme pareil. Donc c'est plutôt ce qu'ils nous disent eux. Et donc nous, effectivement, pendant tout, évidemment qu'on les met en vigilance et que finalement ces sujets-là, d'abord sont portés par une génération qui a cette préoccupation-là, mais aussi évidemment à travers tout l'enseignement qu'on leur prodigue les années précédentes, on les renseigne sur tous ces sujets-là, donc de plus en plus des logiques de réemploi, que ce soit le réemploi de matériaux ou le réemploi finalement d'un bâtiment, ce qui est la restructuration. Voilà, donc ça c'est ça qui est très frappant en ce moment.
Moi j'aime beaucoup cette vision de la vie de demain qui est celle de Damasio, qui est un écrivain de science-fiction. Les écrivains de science-fiction, j'ai toujours pensé qu'ils se trompaient pas trop. La preuve, aujourd'hui, on est en train de vivre un espèce de cauchemar qui a quand même été écrit. On se rend compte qu'aujourd'hui, les écrivains de science-fiction, ils décrivent un monde beaucoup plus positif. Et suivant l'expression d'Amasio, ils décrivent un monde qui serait une ZAD qui a réussi. Alors, je pense pas que ça soit de point de vue formel ou architectural, enfin, je l'espère. Ça va être plus complexe que ça, mais ça raconte bien cette façon de s'organiser ensemble. La façon dont on peut fabriquer une ville, dont on peut fabriquer un projet, fabriquer le demain, et non pas avec un architecte et un urbaniste en chaise qui dessine pour tout le monde. Mais une ZAD, c'est d'abord une façon de travailler ensemble avant d'être une forme.
Non, c'est les systèmes de gouvernance. Et en fait, c'est les systèmes pyramidales, si vous voulez. C'est le côté, effectivement, extrêmement univoque. Un maire décide d'un aménageur, qui décide d'un urbaniste, qui décide d'architecte et de promoteur. Ça, je pense que ce système-là, qui est effectivement encore très présent, il va finir par s'épuiser. Je pense qu'on ne peut plus décréter, à ce point, des territoires avec des pensées uniques, même si... tout le monde fait énormément d'efforts pour que tout soit fait en même temps, mais le « en même temps », justement, parfois, c'est un peu compliqué.
On le voit très bien aujourd'hui sur des expériences que moi j'ai menées il y a quelques années, mais à toute petite échelle, et qu'aujourd'hui ça commence à se structurer. C'est des échelles d'immeubles où effectivement, bah, c'est des propriétaires qui se réunissent pour habiter au sein d'un immeuble. C'est pas un promoteur qui vend un produit, mais des gens qui arrivent à se réunir pour fabriquer du programme, de l'architecture et donc de la vie. C'est quand même très, très, très nouveau et je pense qu'on va aller forcément dans ce sens-là.
Finalement, l'individu va être beaucoup plus actif.
On l'espère.
Il faut. Enfin, c'est ça aussi. C'est une prise aussi de conscience qu'il faut mener sa vie et arrêter d'être mené par la vie. Enfin,
il y a une bascule qui est en train de se poser. Quand Jean parlait des logements qu'on fait aujourd'hui, traversant, etc., grâce ou à cause de la crise du Covid, on se rend compte que depuis quelques temps, on a moins à se battre pour dessiner des logements et pas des produits financiers. Parce que, effectivement, ces dernières années, on avait tendance à on nous demander ce qu'on dessinait, ce qu'on se demandait, c'était encore des logements ou des produits financiers. Alors, on s'est toujours battu contre ça, mais on sent qu'aujourd'hui, la société commence à comprendre.
Bah, le monde de la promotion est obligé de se redéfinir un peu, là.
Tout à fait.
Mais alors, l'architecte dans la ZAD, il devient quoi?
Bah, il est quand même sachant. Il a toujours son rôle. Après, c'est des problèmes de gouvernance. Qui décide de quoi? Moi, je m'en suis rendu compte, entre autres, dans la commande publique. On faisait des collèges et des lycées à l'époque, il y en a beaucoup moins. Quand on a l'utilisateur sous la main, le proviseur dans le cas d'espèce, bah, le bâtiment, à la fin, il va se retrouver bonifié et on va dessiner quelque chose qui sera beaucoup plus pertinent que quand on a juste l'administratif et le politique qui va décider. Ouais, vous avez fait une belle copie, c'est arrivé dans les années 80, je me rappelle, de concours. On gagne le concours, il s'agissait de dessiner exactement ce qu'on avait dessiné au concours. C'était totalement aberrant. Il y a des utilisateurs, il y a des contraintes qu'on ne peut pas ne serait-ce qu'imaginer en 3 semaines ou 1 mois. Il y a la beauté de l'histoire d'un projet qui se nourrit. Quand je commençais ma carrière, c'est qu'on faisait un truc, on rendait la copie, paf, on le construisait. Il n'y avait pas beaucoup
d'interactivité.
D'output extérieur pour nous aider à dessiner. Plus le proviseur est là, plus les parents d'élèves sont là, et même les élèves, à la limite, c'est que du bonus pour le projet. Et on va vers une époque comme ça, heureusement.
Lors de l'interview récente d'un architecte dans Comme d'Archi, ce dernier exprimait son regret de voir la notoriété des projets aujourd'hui dépendre de la force de frappe de l'architecte lui-même en matière de communication, enfin, ou de sa chargée de communication, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, qu'en pensez-vous? Et entre communication et architecture, quelles seraient les limites à ne pas dépasser? Et donc, je rappelle que vous avez œuvré longtemps au fameux annuel optimiste. Donc,
Ce qui est sûr, c'est que la communication à notre époque, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'il faut y réfléchir, il faut avoir un avis là-dessus. Donc effectivement, nous, dans la continuité, quelque part, de ce qu'on a fait avec French Touch à l'époque, à savoir ouvrir finalement le champ de l'architecture et donc partager, en fait, partager des découvertes. Nous, notre façon de communiquer, elle est consciente là-dessus, c'est que notre site, vous trouvez tous les éléments du projet. Vous trouvez des plans, vous trouvez des détails constructifs. Donc, on partage tout. Nous, on est plutôt dans une logique open data. Et l'idée, c'est que les bâtiments qu'on ne va pas faire, et il y en a un paquet, et ben, si quelqu'un peut s'en emparer pour les faire, et ben, tant mieux. Parce que les logiques de communication où on est seulement dans l'idée de faire apparaître une image un peu énigmatique, puisqu'on ne dit pas ce qu'elle est, on ne dit pas ce qu'il y a derrière, juste pour capter un autre bâtiment, hein, si vous voulez, je le comprends, hein, enfin on le comprend tous, hein, ça fonctionne comme ça en ce moment. Mais nous, on essaye d'être beaucoup plus carte sur table, ou plutôt d'offrir, en fait, c'est-à-dire que notre travail, c'est ça ce qu'on communique. C'est pas nos projets, c'est notre travail. Voilà, donc c'est ça notre envie à travers tous les réseaux de communication d'aujourd'hui.
Et Olivier, vous aviez quelque chose à ajouter?
Oui, moi j'ai toujours eu l'impression que, bon, grâce à Jean, il y a un peu plus de communication au sein de notre nouvelle agence. Avec M. Vieux, on a été vraiment minable à ce niveau-là. On pourrait en parler comme ça, mais on se rend compte qu'en fait, si le bâtiment vaut la peine, la communication, elle est là. Quoi.
Elle marche.
Oui, s'il y a quelque chose de singulier, d'intéressant à raconter, évidemment, ça va être raconté par votre métier. Il est bien fait, hein?
Oui, nous, on a un rôle de passeur et il faut bien assurer ce rôle. Et c'est vrai que à travers Instagram, tous les réseaux maintenant, on voit qu'un bon travail d'architecte, où, là où le contrat a été rempli, les gens ont quand même cette facilité à le relayer, à le reconnaître. Pour finir, selon vous, qu'est-ce qui définit très précisément l'esprit de votre agence? Enfin, on en a déjà pas mal parlé, mais peut-être en une ou deux phrases, qu'est-ce qui fait votre différence?
Voilà, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit, moi je pense que nous, on a une approche très réaliste, très pragmatique, mais ce qui n'empêche pas l'invention, bien au contraire. En fait, nous, on invente à partir de ce qu'on sait. C'est un pragmatisme, c'est-à-dire que c'est sur des choses qu'on maîtrise ou pour lesquelles, en fait, on s'entoure de gens qui nous permettent de les maîtriser, qu'on propose de l'invention. Et donc, aujourd'hui, il faut être force de proposition, parce qu'on est dans une époque de transition importante. Voilà. Et nous, on propose.
Peut-être mais... retrouver le plaisir aussi.
La notion de plaisir
est
une notion qui est débattue aujourd'hui parce que dans ces espèces d'injonctions sur la sobriété, tout ça, il y a un caractère un petit peu appauvrissant, si vous voulez, où il faudrait se retenir, enfin, il faudrait être dans la retenue et donc on ne se permettrait plus. Bon, le plaisir, ce n'est pas que le dessin d'architecture. C'est aussi, ben, par exemple, quand on a fait Pulse, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que cette atmosphère intérieure, si vous voulez, le bois, ce n'est pas seulement sa vertu sur sa valeur carbone, c'est aussi ce que ça dégage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un matériau qui permet de donner un sentiment de bien-être très fort. Donc ça, c'est indécelable dans une photographie. Il faut le voir, il faut être dedans pour le comprendre.
Voilà. Et vous parliez de plaisir. Moi, je pense que ce plaisir d'être toujours surpris par... le bâtiment qui va advenir que l'on ne connaît pas. Et garder toujours cette surprise sur la production qu'on va, qu'on va dessiner.
Merci beaucoup pour votre témoignage riche. Et retrouvons-nous donc sur votre bâtiment Pulse en anglais dans l'édition de mercredi. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, C-O-M-D-A-R-C-H-I Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là... prenez soin de vous.